France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, je reçois François Bernheim, auteur, compositeur, producteur, étroitement associé au début de Renaud, puis à ceux de Patricia Cass avec Mon mec à moi. Jeune directeur artistique, il a lancé en 1970 les Poppies, mais François Bernheim fut également interprète et membre du groupe Les Roches-Martin avec la toute jeune Véronique Sanson avant d'entamer une carrière solo. Un homme aux belles aventures et aux mille facettes à mes côtés ce matin, 47 ans après avoir mis en musique une certaine bande de jeunes.
Mes copains sont tous en cabane, ou à l'armée, ou à l'usine. Ils se sont rangés des bécanes, y'a plus de jeunesse, tiens ça me déprime. Alors pour mettre un peu d'ambiance, dans mon quartier le vieux débris, j'ai groupé toutes mes connaissances intellectuelles, et c'est depuis que je suis une bande de jeunes. À moi tout seul, je suis une bande de jeunes. Je me fends la gueule. Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo. Je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Y'a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis. Faut de la discipline dans une bande. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Je débarque au bistrot du coin, et puis qu'un mec veut m'agresser, ben moi aussitôt j'interviens, c'est beau la solidarité. Quand je croise la bande à Pierrot, ils sont beaucoup plus nombreux, ça bastonne comme à Chicago, c'est vrai que dans sa bande ils sont deux. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. Dans ma bande, y'a du rififi, je me téléphone, je fais une bouffe. Je fais un colloque, je me réunis, c'est moi qui parle et c'est moi qui écoute. Parfois je m'engueule pour une soute qui est amoureuse de toute ma bande. Alors la sexualité de groupe, y'a rien de tel pour qu'on s'entende. Je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me prends la gueule. Je me balade en mobilette, on dirait l'équipe est sauvage. 15 décibels, c'est la tempête dans tout le voisinage. Et puis si un jour en banlieue, toute ma bande est décimée par toute une bande de vieux, je me battrai jusqu'au dernier. Car je suis une bande de jeunes, à moi tout seul. Je suis une bande de jeunes, je me fends la gueule. I'm a poor lonesome young band, I feel alone. I'm a poor lonesome young band, I break my gueule.
Bonjour François Bernheim.
Bonjour Benoît.
J'avais envie de commencer avec cette chanson que j'adore et que vous avez co-signée avec Renaud dans l'album Laisse Béton, l'album qui a vraiment lancé Renaud en 77. Vous vous rappelez comment elle a vu le jour, cette chanson?
Chez moi, je crois.
Chez vous?
Il venait souvent, Renaud, à la maison. On répétait un petit peu tous les deux. J'habitais le Marais à l'époque, il était toujours en retard. D'ailleurs, un jour, il est en retard et je lui dis, c'est marrant, pourquoi t'es en retard? T'es emmerdant à la fin. Il me dit, laisse béton.
Laisse béton.
Et je lui ai dit, je à chaque goût, je lui rapporte cette anecdote. Je lui ai dit, tu reviens demain à la maison et t'as écrit une chanson qui s'appelle Laisse béton. Je sais pas ce que tu vas mettre dedans, mais en tous les cas, fais ça.
Voilà, parce que vous étiez en quelque sorte directeur artistique.
Producteur,
donc de Renaud pour ses deux premiers albums. Hein. Ça, c'est le second. Le premier n'avait pas marché du tout d'ailleurs. Très bien, disons.
Mais pas du tout.
Pas du tout.
Il y a dû vendre 3000 ou un truc comme ça. Mais il y avait la chanson mythique qui s'appelle Hexagone, où les Français en pleine la gueule.
Voilà, violent. Plus que d'ailleurs celle qu'on vient d'entendre qui est plus
beaucoup
légère
plus
et que j'aime beaucoup.
Ouais.
Vous vous rappelez d'ailleurs la première fois où vous avez vu Renaud?
Ouais, très bien. Jacqueline Maco.
Oui, on va parler d'elle tout à l'heure d'ailleurs.
Était allé le voir parce qu'il était en première partie d'un spectacle de Coluche dans un endroit qui s'appelait le Cafcon.
Ouais.
Coluche lui avait dit viens chanter deux chansons ou trois, etc. Il était avec son accordéoniste et lui jouait à la guitare. Il chantait Société, tu m'auras pas, etc. Et puis là, je l'ai vu, il est venu après, et on a tout de suite sympathisé, dans la mesure où il était encore 68ard, bien dans l'âme à ce
très
moment-là.
Très politique, ouais.
Très politique, très ouais. socialo, ouais, ouais. enfin, très anard. Et il est resté d'ailleurs, il est resté. Et mais tout de suite, moi, j'ai été séduit par un maximum de chansons, Camarade bourgeois, Société, tu m'auras pas, Crève salope, tous les trucs qui...
ben voilà, qui...
Et Hexagone, bien sûr.
Qui ont fait le début. On va y revenir donc de Renaud, dont vous avez été le premier producteur. Vous avez été aussi, on peut le dire, on en reparlera, l'homme qui a lancé Patricia Cass. Vous avez écrit Mon mec à moi, entre ouais. autres, ouais. et puis beaucoup d'autres. Mais d'ailleurs, on s'y perd un peu. Vous êtes, alors quelquefois, c'est auteur, compositeur, interprète, mais vous êtes producteur, auteur, compositeur, interprète. Qu'est-ce qui l'emporte dans tout ça? On est au pays des étiquettes, non, mais c'est au gré des aventures que vous avez été plutôt l'un ou plutôt l'autre?
Non, mais franchement, j'en sais rien. C'est parce que moi, je commence dans la vie, je suis repéré par Eddie Barclay, je ne sais pas pourquoi, ni comment. Oui. En quelques instants, je deviens son assistant, je ne sais pas pourquoi.
Ni
je
comment.
Ne sais pas comment. Je ne sais pas qui a parlé de moi à lui. Je n'en sais foutrement rien, donc j'ai appris un peu tout en même
comme
temps
oui.
À écrire dans mon petit bureau de la rue de Neuilly, là où il y avait les disques Barclay, à être aux côtés d'Eddie Barclay, de savoir ce que c'était qu'un producteur, savoir aussi ce que c'était qu'un éditeur, et surtout, moi, j'ai continué à écrire.
Et vous vouliez être chanteur aussi, auteur-compositeur.
Alors là, oui, je voulais être dans la lumière, moi.
Ben voilà.
Et puis c'est loupé.
C'est pas ce qui a finalement marché le mieux dans votre vie, mais quand même, il en reste qu'un certain nombre de disques.
Oui, ça, j'ai pris des bides.
Bon, en tout cas, je suis ravi que vous soyez ici aujourd'hui. Vous étiez passé il y a quelques années en compagnie de ma chère, j'ose dire, même si je la connais à peine, Sandrine Saroche, parce qu'elle me fait énormément rire. Vous travaillez toujours ensemble, on y reviendra
elle,
aussi.
Elle vous salue d'ailleurs.
Ah ouais, voilà. Puis, ben voilà, on va revenir sur cette vie étonnante qui est la vôtre et ces rencontres si marquante pour vous, mais aussi pour nous, pour notre mémoire musicale. Et on va commencer par remonter dans votre petite enfance avec une chanson qui, je pense, va peut-être vous rappeler votre mère.
Paris, c'est du champagne. Paris, c'est de l'amour. C'est le pays de cocagne où le Paris, c'est du champagne et de l'amour. Si l'anglais boit du whisky, le norvégien se grise au jus d'orange. L'italien boit du chianti, l'américain fait de curieux mélanges. Mais au monde entier, chacun se dit, sur la terre, il n'est qu'un paradis.
Hey, oui.
Paris, c'est du champagne,
Paris,
c'est de l'amour, c'est le pays de cocagne, où le temps paraît trop court, l'esprit que l'on y gagne au cœur chante toujours, car Paris c'est du champagne.
Bon, j'ai pas besoin de dire que c'était Luis Mariano. Par contre, tout le monde ne saura pas que c'était l'opérette Réveillon à Paris de l'excellent Joe Moutet. Alors, je crois que votre mère aimait bien cette chanson, entre autres, François Bernard.
Elle était dingue, surtout dingue de Luis Mariano.
Ah, elle adorait Luis Mariano.
Oui, bien sûr. Mais elle préparait l'opérette. Elle voulait être chanteuse d'opérette.
Ah oui.
Et puis, un jour, évidemment, il a fallu choisir. Et mon père a dit, attention, c'est l'opérette ou moi?
Ah oui. Elle a choisi votre père. C'est pour
elle
ça que vous êtes là.
Elle a choisi mon père. Et je suis là.
Tout en simple. Tout cas, François Bernheim, vous avez grandi dans la banlieue parisienne.
Ouais.
Une enfance pas spécialement opulente et bourgeoise. Hein.
Même pas du tout opulente. Nous habitions avec mes parents à Croissy-sur-Seine, c'est-à-dire au milieu des maraîchers au milieu des champs de carottes, de poireaux, de salades, etc. Et on faisait des forts avec les cajots, on s'amusait avec les copains.
Les cajots de légumes.
On n'était pas vraiment malheureux, mais pas vraiment pas riche, quoi.
Voilà, voilà. Mais votre mère adorait la musique et la chanson.
Ah oui, elle préparait l'opérette, elle était là, elle était fascinée par ça. Et puis, je vous dis, ça n'a pas pu se faire parce que mon père a assisté un jour à une répétition, c'est lui qui me l'a raconté. Et puis, il y avait un ténor qui s'intéressait beaucoup à ma mère. Il lui a dit, t'es très belle, hein. Il a dit, voilà, c'est l'opérette ou moi, tu choisis.
Il faisait quoi, votre père?
Mon père, c'était de petits fonctionnaires, mes parents.
Oui.
Mon père était employé à la sécurité sociale de Clichy-sous-Bois. Ah, et ma mère était secrétaire de direction aux affaires économiques à Paris.
Mais en tout cas, ils vous ont transmis ce goût de la musique à tel point que vous êtes devenu petit chanteur très jeune.
Ouais.
Et que vous avez adoré chanter tout de suite, hein.
Avec ma mère, on chantait Paris, c'est du champagne.
Oui.
Ensemble.
Mais après, vous êtes devenu chanteur en aube.
Alors oui, c'est les petits chanteurs à la Croix-de-Bois. C'était une expérience. Moi, j'adorais ça.
Mais comment vous avez été recruté dans les petits chanteurs à la Croix-de-Bois?
Parce
que c'était quand même une chorale très très célèbre.
J'ai d'abord été recruté à Croissy-sur-Seine.
À la chorale de Croissy.
Avec l'abbé Régnier, je m'en souviendrai toute ma vie. Et tout de suite, j'ai fait la différence, voilà, avec mes copains. Donc, j'ai été soliste tout de suite. Puis après, bien évidemment, on passe à autre chose. On passe avec l'abbé Maillet, on passe avec... Voilà. Mais j'ai pas fait les tournées, hein. J'ai vite splitté. C'est une ambiance formidable.
Vous avez aimé, c'est un bon souvenir. Ah, oui.
Formidable. J'ai beaucoup de copains. Le chant, ça rapproche beaucoup.
Vous chantiez quoi, d'ailleurs, au petit chanteur à la Croix-de-Bois?
Oh nuit, qu'il est profond ton silence, quand les étoiles dorment, etc.
etc. etc. Voilà, en tout cas, le virus était là, d'une certaine façon.
Ça, c'est sûr, c'est sûr.
Mais ça a été terrible pour vous quand vous avez mué, parce que ça marquait que c'était la fin aussi.
La mue, c'est à la fois le début de quelque chose d'assez flou.
Oui. Hein.
Mais en tous les cas, c'est la fin de quelque chose de très très violent, parce que d'un coup, on n'est plus la star.
Tout d'un coup, vous n'arriviez plus à trouver la note aiguë, là.
Moi, j'ai mué, me suis cassé la voix en plein milieu d'une messe de Noël, quand même.
Ah oui, quand même.
Ouais. Bon, voilà, je l'ai écrit quelque part en plus, parce que c'est un truc tellement traumatisant, mais franchement, c'est traumatisant.
Mais alors, ce qui est extraordinaire, c'est que peu après, donc vous êtes encore un jeune adolescent, vers l'âge de 16 ans, je crois, vous êtes en vacances avec vos parents en Espagne,
ouais.
Et vous faites la connaissance de deux sœurs,
ouais.
Deux jeunes filles, plutôt bon chic, bon genre, elles,
ouais.
De bon milieu, mais qui adorent la musique aussi. Et c'est Véronique Sanson et sa sœur qui ont quel âge?
Violaine a mon âge et Véronique a 2 ans de moins.
13-14 ans, Véronique, quoi.
Mais c'est ça, quelque chose comme ça.
Et ouais. Vous avez sympathisé comme ça en vacances?
Écoute, Benoît, c'était un plan de drague sur la plage.
Ah oui.
Quand même, c'était pas autre chose. Vous voyez, ces deux jeunes filles, très blondes et très courtisées par une nuée, un essaim d'Espagnols, mais tous bon chic, bon genre aussi. C'était à Caldetas. Je me souviens, c'est une petite station extrêmement bourgeoise de la Costa del Sol. Nous, on était avec mes parents dans une pension de famille planquée derrière la voie ferrée.
Moins chic.
Elles étaient à l'hôtel Colonne, magnifique hôtel. Tout blanc, et voilà. Bon, c'était évidemment que je ne devais pas être si moche que ça, et elle était très belle. Donc on a tout de suite sympathisé, mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'on adorait la musique.
Tous les trois.
Tous les trois.
Voilà. Vous adoriez tellement la musique tous les trois que vous avez commencé à en faire.
Ouais.
Et peut-être on va y revenir dans un instant, mais on pourrait écouter. Là, vous avez formé un groupe,
ouais. Hein,
qui s'appelait les Roche-Martin.
Ouais.
Donc les Roche-Martin, c'était les deux sœurs Sanson et vous.
Et moi. Hein,
trio. Ah,
ouais.
Pourquoi Roche-Martin?
Alors je me le demande encore. Mais évidemment, on savait pas trop. On à part s'appeler les trois machins, le trio truc, etc. Un jour, on a pris. Je vous assure que c'est vrai. On a pris l'annuaire. Il y avait des annuaires encore à l'époque. On a fermé les yeux chacun. On a fait comme ça. Et on est tombé sur Roche et Martin.
Voilà, tout simplement.
Tout simplement.
Et le trio s'est appelé les Roche Martin.
J'espère en tout cas que vous... toi qui es.
Pourquoi me dites-vous?
C'est toi qui es. C'est toi qui as caché notre vie.
Voilà, lui, c'est François Bernheim, mon invité. Les deux femmes, ce sont Véronique Sanson et sa sœur Violaine en 1966, bien avant qu'elle ne devienne célèbre, Véronique en l'occurrence. Et en fait, donc vous les avez connues vers 16-17 ans, et puis là, vous avez genre 19 ans et vous enregistrez déjà un disque. C'est allé quand même assez vite, l'émergence de ce groupe, François
Bernheim. C'est grâce à la maman de Violaine et Véro qui
avait des relations.
C'était notre premier public. Ouais. Dès qu'on faisait une chanson ensemble, Véro, Violaine ou moi, ou les trois ensemble, on allait la chanter à Colette. Sanson, qui avait une écoute extraordinaire, magnifique, tendre en tous les cas, et qui un jour a organisé un goûter chez elle, avec des gens qui devaient avoir une cinquantaine d'années tous.
Sauf qu'il y avait là un monsieur qui était très proche du monde du disque.
Et on ne savait pas.
Qui s'appelait Alain Dricou, c'est ça ?
Alain Dricou, qui était directeur des éditions Pathé Marconi à l'époque. Et qui nous a liés demain dans mon bureau.
Et c'est comme ça que vous avez enregistré votre premier 45
Absolument,
tours.
Absolument, on a été présenté à Michel Berger.
Mais alors c'est ça, le tout jeune Michel Berger, au même moment, lui est aussi chez Pathé comme directeur artistique.
Oui, il a mon âge.
Il a votre âge.
Et il a déjà fait un film.
C'est là qu'il rencontre donc Véronique Sanson.
C'est là qu'il connaît Véro, bien sûr. Voilà. Ça s'est passé petit à petit, hein, leur histoire.
Oui, c'était pas le coup de foudre tout de suite au premier coup d'œil.
Bon, moi je savais bien en tous les cas que le groupe était foutu. Je l'avais senti.
Vous avez fait combien de 45 tours avec les Roche-Martin?
Deux, il y en a un qui est pas sorti. J'étais pas d'accord, moi, avec ce qu'on nous faisait chanter. Donc je l'ai exprimé un peu violemment à ce moment-là.
Donc il y a eu scission comme dans tous les groupes.
Oh, non, mais ça, nous on est encore amis, Violaine, Véronique et moi, on se voit toujours.
Oui.
Non, mais là, on a compris parfaitement en tous les cas que c'était fini et puis qu'on faisait autre chose, qu'on allait faire autre chose.
Et alors là, François Bernheim, vous aviez un peu poursuivi vos études de droit. Et alors c'est cette chose extraordinaire, donc après ce premier petit succès qui n'a pas vraiment explosé, loin de là, mais enfin quand même, vous avez mis un pied dans le monde de la musique. Et pourquoi est-ce qu'Eddie Barclay, tout d'un coup, vous téléphone pour vous proposer de devenir directeur artistique chez lui? Vous avez dit tout à l'heure, je n'en sais rien, mais quand même, il y avait bien une raison pour laquelle il vous a appelé.
J'ai quelques hypothèses, je n'en sais rien. Peut-être Michel Berger lui a-t-il parlé de moi, mais le connaissait-il? Je n'en sais rien. Peut-être quelqu'un de chez Pathé Marconi à l'époque lui a parlé de moi, je n'en sais strictement rien. Peut-être Alain Dricou lui a parlé de moi aussi, je ne sais pas.
Alors c'est drôle parce que il veut vous engager comme tout jeune directeur artistique, mais vous lui dites, je suis désolé parce que là je vais à New York. Il me dit, ça tombe bien, moi aussi je vais à New York, et finalement vous vous rencontrez
le lendemain
à New York.
Il m'a dit, appelle-moi, je suis au Plaza. Qu'est-ce que c'était que le Plaza? Moi j'étais ignare total, j'avais jamais vu New York de ma vie.
C'est le plus bel hôtel de New York aussi.
Et j'avais pris un billet Greyhound, vous savez, de circulaire. J'avais économisé un an pour m'offrir ce voyage avec un copain de la fac aussi, pour faire le tour des États-Unis en Greyhound, c'est-à-dire en bus. Chose que j'ai faite, mais alors, avant, le premier jour évidemment, là je suis allé le retrouver au Plaza.
Alors il vous a dit?
Il m'a dit, alors c'était juste avant dans son bureau, tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiant en droit. Ah bon? Et pour gagner ta vie, tu fais comment? J'ai un petit boulot. Et combien tu gagnes? 1500 francs par mois. Et il me dit, écoute, moi je t'offre la même chose, mais à temps complet. Chez moi, tu deviens mon assistante à 5 minutes.
Pour te décider.
Ah, mais je vous assure que c'est je ne retire rien, ni n'invente rien. Ça s'est passé comme ça. Et j'ai dit, bon, j'accepte.
Et alors, qu'est-ce qu'il attendait d'un jeune directeur artistique comme ça?
Je me le demande encore.
Ah bon? Fallait être là tout le temps. Fallait être disponible.
Tout le temps. Fallait être au téléphone tout le temps, disponible. Alors, il me faisait appeler par ce secrétaire. Monsieur Barclay a besoin de toi. François, il est chez Lippe avec Nicoletta. Il a une idée. Est-ce que tu peux venir immédiatement? Et de toute façon, c'est pas est-ce que tu peux venir immédiatement, c'est tu viens immédiatement. Voilà.
Vous étiez là pour relayer les idées, quoi.
Oui, c'était assez flou.
Et c'est quand même un grand seigneur, à sa façon.
Moi, je l'aimais beaucoup. Ouais. Sauf que j'étais très timide avec lui. Très, très timide. Ouais. D'abord, il avait le même âge que mon père. Ouais. Exactement. Mon père était né en 21, lui aussi. Donc, j'avais des rapports un peu fifis, pépère avec lui, comme ça. Mais lui, il était parfois un peu cruel.
Ah oui, quand même. Oui, c'est ça. Oui.
Ah oui. Il ne fallait pas faire une connerie. Il ne fallait pas dire quelque chose non plus. Petit à petit, il m'invitait, en tous les cas, à ses déjeuners, à ses dîners. Pas tous, bien sûr. Mais j'étais là. je prenais ça comme quelque chose d'assez privilégié dans la mesure où les autres directeurs artistiques n'étaient pas trop invités.
Et un jour, donc, il vous présente Brigitte Bardot.
Ouais.
Et il vous dit, bah, tu vas t'occuper d'elle, en quelque sorte.
Déjà, je me suis un peu liquéfié quand j'ai rencontré Brigitte. Elle était étalée sur un bureau chez lui, enfin dans son bureau.
C'était avenue de Neuilly ?
C'était avenue de Neuilly, oui, 143 avenue de Neuilly.
Donc Brigitte est là, allongée.
Et là, il est derrière elle avec son cigare et son verre de vin. Et il dit, tiens, Brigitte, voilà, ce sera François, ton nouveau directeur artistique. Et moi, je me suis liquéfié. Sur scène, elle était en pleine beauté. Elle est toujours, d'ailleurs, forcément en pleine beauté, parce que ça s'en va pas comme ça. Elle arrêtait juste le cinéma. Elle m'a tout de suite parlé, dit, tu t'occupes de tout? Je dis, oui, je vais m'occuper de tout, bien sûr. Comment? Qu'est-ce que je fais? Voilà, trouver des chansons, c'est ce que j'ai
essayé. Ça veut dire quoi? Trouver des chansons, superviser les enregistrements, etc., quoi.
Exactement. Voilà.
Elle a été adorable, je crois.
Plus qu'adorable.
Ouais.
Quelqu'un de merveilleux. Moi, je la défends toujours bec et ongle, parce que c'était quelqu'un qui était extrêmement généreux avec moi, qui voyait bien que j'avais pas de sous et qui m'invitait très très fréquemment ou chez elle ou au restaurant, voilà. Et quelqu'un de, mais en dehors de ça, je bossais vraiment et elle bossait vraiment.
Voilà.
C'était quelqu'un de très très sérieux dans le boulot.
Et vous avez fait une chanson pour elle?
On a fait plusieurs, mais j'en ai fait plusieurs. Une qui s'appelle C'est une bossa
nova. Plus marquante que les autres, voilà.
C'est une bossa nova qu'elle adore. Elle m'en parlait il y a encore peu de temps.
Ah.
Ouais.
C'est une bossa nova que j'ai dansé avec toi. Je ne me souviens plus très bien où ça. C'était la fin de la nuit. J'avais bu quelques whisky. Alors tu m'as emmené chez toi. Chez toi. C'est une bossa nova. Je ne me souviens plus de toi, mais je me souviens de cet air-là.
C'est une bossa nova, Brigitte Bardot, en 1970, paroles et musique de François Bernheim, alors tout jeune directeur artistique chez Barclay. Mais ça veut dire que depuis que vous étiez arrivé chez Barclay, et depuis l'époque des Roches-Martin, vous vous étiez mis à écrire, à composer des chansons de façon ininterrompue ou non?
Moi, je n'ai jamais cessé d'écrire, je me lève le matin. D'ailleurs, il y en a qui se lèvent l'après-midi, mais moi, c'est le matin
vous,
très tôt.
C'est le matin tôt, oui.
Et j'écris, et tout de suite, je sors ma guitare.
Mais c'était déjà le cas quand vous êtes arrivé chez Barclay, vous continuiez à faire des chansons
totalement,
tout le temps?
Oui, tout à fait.
Ah oui, donc vous aviez cette envie d'écrire des chansons, plutôt les paroles, plutôt la musique, plutôt
les deux. Ça dépend de ce qui se passait dans ma tête à ce moment-là. Voilà, bon. J'ai mes premières chansons qui sont évidemment anti-militaristes, tout ce que vous voulez imaginer, anti-social même. Bon, c'est normal, j'avais 20 ans.
Ben oui, bien sûr. Oui.
Et voilà.
Puis après, vous êtes devenu plus romantique et
tendre. J'étais 68 ans aussi.
Alors, chez Barclay, il y a quelqu'un d'important que vous avez rencontré et qui est resté un petit peu votre proche et votre associé, si on peut dire, artistique pendant de très longues années, presque jusqu'à nos jours. C'est Jacqueline, justement, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui s'appelait Jacqueline Nero.
Elle s'appelait après Jacqueline Ehrenschmidt, elle voilà. S'est mariée. Elle s'est déjà appelée, entre-temps, Jacqueline Missire, puisque c'était la femme de Léo Missire, vice-présidente de Barclay. Et puis après, elle s'est appelée Jacqueline Ehrenschmidt et elle chantait sous le nom de Jacqueline Nero, effectivement.
Voilà.
Quand elle est une chanteuse de bar et c'est aussi une danseuse des ballets Arthur Pleschard.
Mais vous aimez bien et au moment où même Barclay a failli, t'es en faillite, a licencié pas mal de monde, elle a tenu à ce que vous restiez.
Elle m'a sauvé la vie, je veux
dire. C'est ça, oui.
Et puis, c'est Barclay. Moi, j'avais rien fait pendant un an. C'est pas mon salaire qui risquait de faire capoter la société. Mais enfin, je servais à rien parce que j'avais rien fait, quoi, tout simplement. Et j'avais utilisé de l'argent sans en gagner. C'était ça le but quand même de l'histoire.
Et vous avez commencé à faire des chansons donc avec Jacqueline Nero.
Ouais, là, Jacqueline, Barclay lui a dit qu'est-ce que je fais avec François, elle lui a dit surtout faut pas le bouger lui.
Voilà,
c'est comme ça.
Et alors elle est donc associée à cette deuxième aventure dont je voulais parler parce que moi ça me rappelle vraiment des souvenirs de gamin, c'est les Poppies. Ouais. Les Poppies, donc groupe d'enfants faisant de la musique pop.
Un jour Barclay va à New York, il revient. Il allait souvent à New York puisqu'il est importé du Micro-Sillon. Ouais. Il dit à Jacqueline, j'ai vu là-bas un groupe d'enfants qui chantent le racisme, etc. Ça s'appelle The Voices of Harlem.
Voilà, les Voices of Harlem.
Et elle dit, j'aimerais bien quand même qu'il se passe quelque chose. Elle descend direct dans mon bureau et elle me dit, voilà ce qu'il m'a dit. Et là, moi, immédiatement, je suis parti à fond la caisse.
C'était lié pour vous quand même un petit peu au fait que vous aviez été vous-même petit chanteur, tout ça?
Bien évidemment, bien évidemment, j'adorais ces voix-là.
Ah ouais.
Et j'ai tout de suite écrit cette chanson qui s'appelle Noël 70, voilà. Et on s'est mis en quête pour chercher une chorale dans la banlieue parisienne. On a trouvé cette chorale d'Asnières, dirigée par Jean Amoureux, qui s'appelle...
Jean Amoureux, voilà, qui est aussi à l'origine vraiment des Poppies.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Donc la chorale d'Asnières, donc tous les petits choristes d'Asnières étaient plus ou moins entraînés dans ce projet. Vous avez dû faire une sélection d'un groupe au sein de la chorale.
On a sélectionné ceux qui paraissaient les plus musiciens, en tous les cas. On a sélectionné 17 avec Jacqueline. Ouais. Parmi ces 17, il y avait des solistes qui sont naturellement devenus solistes, dont Bruno Polius, qui a fait pratiquement toutes les parties solo.
Celui qui a fait même poursuivi la carrière après les Poppies, d'ailleurs.
Oui, bien sûr.
Et ça a été un succès fou.
Ah, mais immédiat. C'était incroyable. Incroyable. Ça m'a sauvé même du fait de faire mon service militaire.
Ah bon,
parce que j'ai tout fait pour ne pas le faire.
Ah oui.
Et j'y suis arrivé parce que à cette époque, on vendait quand même 20 à 30 000 disques par jour.
Ah ouais.
Donc, si c'est pas possible, tu commences quelque chose, tu peux pas t'absenter un an. C'est juste impossible. Or, c'était très difficile parce que la jeunesse de 68 dont je faisais partie, ça, on les loupait pas pour le service militaire. On les envoyait dans des trucs très durs, même.
Voilà. Mais on peut dire, en tout cas, c'était aussi, on peut dire, les Poppies, un produit marketing bien ficelé, quoi, avec ces petits jeunes habillés en cœur, etc.
Benoît, on n'y pensait pas.
Oui, non.
Ah non, on n'était pas du tout marketing, Jacqueline et moi.
Ouais.
On essayait simplement de faire des chansons en fonction, surtout en fonction du fait que, jusqu'à présent, il y avait... Alors, je ne dis pas que c'était pas bien ce qu'on leur faisait chanter aux enfants, mais c'était un peu gnangnan, un petit peu...
Oui, c'était bien pensant, quoi.
Bien pensant.
Pour la paix, pour l'amour.
Joli, tout ce qu'on veut, etc. Et moi, je me suis dit, et on s'est dit tous les deux, ces gosses qui viennent tous de banlieues assez difficiles, Gennevilliers, tout ça, etc., quand ils traversent les terrains vagues et qu'ils voient sur les palissades, US Go Home, etc., la guerre au Vietnam, c'était en pleine guerre au Vietnam. On s'est dit, il ne faut pas les prendre pour des cons, ces enfants, s'ils sont leur libre arbitre. Et on a discuté avec eux.
Ah d'accord.
Oui, on n'a pas fait ça comme ça. On leur a imposé rien du tout. En plus, les parents étaient d'accord.
Ah oui, c'est ça, tout le monde était dans le coup.
On n'a jamais rien fait sans l'avis des parents.
Ça a donné des succès immenses. Moi, il y en a un que j'avais envie de réécouter parce que... Il est assez rock d'ailleurs. Non, rien n'a changé.
Oui, c'est du gospel, blues, pop, ce que vous voulez.
Alors, vous avez fait, vous, dans cette chanson...
J'ai fait la musique. On a tout fait ensemble.
Avec Jacqueline.
Ouais, voilà.
Et les arrangements de...
Hervé Roy.
C'était Hervé Roy, excellent arrangeur.
Absolument.
Qui a fait tous les disques des Poppies, donc...
Oui, tous, sauf un, je crois. Oui, tout. Voilà.
C'est l'histoire d'une trêve que j'avais demandé. C'est l'histoire d'un soleil que j'avais espéré. C'est l'histoire d'un amour que je croyais vivant. C'est l'histoire d'un beau jour que moi, petit enfant, je voulais très heureux. Pour toute la planète, je voulais, j'espérais que la paix règne en maître en ce soir de Noël. Mais tout a continué, mais tout a continué, mais tout a continué.
Non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué.
Avec nous et pourtant bien des gens se sont mis à genoux pour prier.
Oui, pour prier.
Pour prier.
Oui, pour prier.
Mais j'ai vu tous les jours à la télévision, même le soir de Noël, des fusils, des canons. J'ai pleuré.
Oui, j'ai pleuré.
J'ai pleuré. Qui pourra m'expliquer que
non, non, rien n'a changé. Tout, tout a continué.
Je pense à l'enfant entouré de soldats. Moi je pense à l'enfant qui demande pourquoi tout le temps.
Oui, tout le temps.
Tout le temps.
Oui, tout le temps.
Moi je pense à tout ça, mais je ne devrais pas toutes ces choses-là. Ne me regarde pas. Et pourtant.
Oui, et pourtant.
Et pourtant. Je chante, je chante.
Les Poppies en 1971 dans une chanson de mon invité François Bernheim, qui a une vie étonnante, lui qui a été petit chanteur à la Croix de Bois, qui a lancé les premiers disques de Renaud et de Patricia Cass, on va le voir, qui a chanté avec Véronique Sanson avant qu'elle ne soit Véronique Sanson et qui a donc connu ce succès avec les Poppies au début des années 70. Je précise, il y a vraiment un soliste dans le groupe, et là on l'entend, et qui a continué d'ailleurs dans la musique après.
Il y a plusieurs solistes, dont Bruno
Paulus,
qui a vraiment entraîné le groupe d'une façon, parce que bon, qui a eu quelques petits problèmes aussi de jalousie. Les enfants sont cruels, et même les adultes sont cruels.
Il est devenu musicien, il a joué avec Johnny,
excellent guitariste.
Voilà pour ce qui est donc de l'époque des Poppies. Alors je reviens, on en l'a un petit peu évoqué, François Bernheim, au fait que parallèlement donc à votre travail de directeur artistique, d'auteur-compositeur, à cette époque-là, vous continuez quand même très sérieusement votre propre carrière de chanteur. Et vous enregistrez des disques, plusieurs, et il y en a qui marchent plus ou moins. C'est peut-être pas ce que vous aviez voulu, mais enfin, ça a été important aussi.
Allez, bon, on va dire qu'il y en a un qui a à peu près marché. C'est une chanson que j'avais faite avec Jean-Pierre Lang qui s'appelait Démo. Jean-Pierre Lang, l'auteur de Bachelet.
Jean-Pierre Lang, un des grands auteurs de la chanson française.
Énorme auteur, bien sûr.
Mais alors, c'était quoi votre vie de chanteur, donc, à l'époque, votre vie de chanteur? C'est-à-dire, vous avez fait des disques, vous avez fait des spectacles, vous avez des tournées?
Non, il m'arrivait d'aller me fourvoyer dans des balles de province pour faire des trucs. À chaque fois, je pense à Cabrel qui, lui, a commencé, évidemment, comme ça. Pour moi, c'était un peu moins important, mais c'est vrai, parfois, je faisais une apparition dans un bal de province en première partie de quelqu'un d'obscur aussi. Enfin, ouais. Mais vous savez, c'est pas mal comme école,
Mais c'était pas frustrant d'un côté de faire des chansons qui marchait pour les autres, et peut-être de ne pas avoir tout à fait le même succès pour vous-même?
Non, c'était un petit peu dans l'ombre, c'est vrai. Enfin, au départ, on se dessine toujours à être un peu dans la lumière, on s'identifie à nos idoles, bien sûr. Ouais. Là, je dois dire que bon, je me suis un peu loupé. Mais j'allais quand même, rue Saint-Séverin, par exemple, à Paris, avec ma guitare, chanter dans un resto, et je chantais souvent avec un garçon qui s'appelait Charles Brutus MacLay et qui chantait à l'angle de la rue des Beaux-Arts et de la rue de l'Ancienne Comédie.
Ah voilà.
Et voilà, on chantait ensemble comme ça. Voilà.
Dans toute cette période-là, vous continuez chez Barclay, puis ailleurs ensuite à travailler avec des artistes. Alors, on peut pas tous les mentionner, mais il y a Louis Chédid, ça a été une rencontre importante.
Louis Chédid, il est venu me voir dans mon bureau, je l'ai tout de suite dit, c'est lui. Et on a fait tout de suite un album qui s'appelait Balbutiement, avec un groupe qui s'appelait Ophiuchus. Louis est resté un ami. Mathieu était dans le ventre de sa mère à l'époque. Ouais. Il a dû, à mon avis, récolter quelques bonnes vibrations.
Ouais.
Et je suis très fier, moi, d'avoir réalisé ce disque pour Louis, en tous les cas. Ouais.
Et puis alors, un petit peu plus tard, il y a eu aussi une autre rencontre marquante, c'est celle de William Scheller.
Alors William, oui, c'est un peu après Barclay.
Et vous étiez toujours associé avec Jacqueline
Oui, bien sûr. William est tombé par hasard dans nos mains, je dis pas. Il n'était pas bien, il avait déjà fait un ou deux disques. Puis, à l'époque, avec Jacqueline, on avait monté le studio Ferber. Donc, avec René Hamelin, qui était ingénieur du son.
Vous aviez votre studio d'enregistrement, donc.
Ouais, c'était un gros studio, c'est un énorme truc. Et puis, Scheller, on lui a dit, voilà, William, des chansons formidables, on t'offre le studio. Voilà. On est devenu non pas producteur de cet album magnifique, T'es Rockin' Dollar, hein, mais on est devenu éditeur de William pour la circonstance, qui m'a arrangé deux trois chansons après, magnifique.
C'est un merveilleux musicien.
C'est un garçon que j'adore, vraiment.
J'avais eu la joie de faire une émission avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. Mais alors là, on va vous retrouver donc vous-même dans cette chanson que vous privilégiez parmi celles que vous avez faites, mais sur 1977, démo avec Jean-Pierre Lang.
Ouais.
On la trouve sur Internet en tout cas.
Il n'y a que là qu'on peut la trouver.
Démo que l'on s'inventait sur les Bee Gees. Des mots qui semblaient venir droit d'une église, des mots qui se sont envolés comme des notes sur un clavier, des mots que l'on s'inventait sur les Bee Gees. Oh, des mots comme un soleil dans une aube grise. Oh, ces mots que l'on aime chanter tant que le disque n'est pas terminé. Et pour la table et pour la cheminée, les musiciens continuent de jouer, et les violons dans un dernier sanglot jouent la musique, mais y'a plus de mots. Oh, et pour la table et pour la cheminée, les musiciens continuent de jouer, joue la musique, il n'y a plus les mots. Oh, il n'y a plus les mots. Il n'y a plus les mots.
France Musique, Étonnez-moi Benoît, Benoît Dutertre.
François Bernheim, mon invité qui chante Démo en 1977. Là, alors là, vous êtes à la fois compositeur et interprète avec les paroles de Jean-Pierre Lang. Alors, on peut pas évoquer tout ce que vous avez fait comme directeur artistique et producteur, mais on peut citer dans ces mêmes années, par exemple, le lancement, ça c'est encore chez Barclay, d'Esther Galil.
Le jour se lève, oui.
Avec un succès énorme qu'on
c'est une chanson
un peu oublié aujourd'hui. Mais...
chanson qu'on avait faite avec Jacqueline.
Toujours Jacqueline.
Toujours Jacqueline. Très important personnage de ma vie.
Oui. Mais c'est encore une artiste qui avait été repérée par Barclay en Israël, je crois.
Non, il rôdait un petit peu dans les spectacles, comme ça, il avait trouvé ce spectacle, une tournée israélienne.
Ouais.
Parce qu'elle, Esther, était un lieutenant de l'armée israélienne à l'époque.
Oui, c'est ça,
Voilà, on a fait ça, et voilà.
Vous avez même fait une chanson avec Edgar Faure?
Alors non, Edgar Faure, à l'époque président de l'Assemblée nationale, oui. m'a envoyé des textes.
Oui, ah oui, c'est ça, il vous a envoyé des textes pour les mettre en musique.
Il m'a dit, il m'a envoyé un petit mot extrêmement humble en plus, excusez-moi de vous déranger, pardon, je ne veux pas. C'était absolument charmant et il a envoyé des trucs. J'ai rien pu faire de ça malheureusement, mais voilà. Non, mais j'ai beaucoup aimé cette histoire.
Oui, c'est quand même pas mal. Voilà, je voudrais arriver maintenant, on a évoqué Renaud, on a évoqué les Poppies, à une troisième rencontre déterminante. Là, on est au début des années 80, je crois en 83, quelque chose comme ça. Et c'est donc Patricia Cass que vous avez repérée tout de suite.
Alors, j'avais un poisson pilote d'un copain, vraiment. C'est un poisson pilote, c'est un peu péjoratif, mais non. C'est quelqu'un qui travaillait chez Universal, qui s'appelait Joël Cartini, qui s'appelle toujours Joël Cartini. Et je lui avais dit, écoute, c'était phonogramme à l'époque. J'ai dit, écoute, si tu vois passer des trucs, préviens-moi. Et il m'a prévenu.
Ouais.
Alors il m'a dit, voilà, bon, c'est intéressant.
Une voix étonnante.
Donc c'était une vidéocassette prise dans un bar à Sarreguemines.
Ouais.
Et je lui ai dit, écoute, là, on part demain, on prend la voiture, on y va. J'ai appelé la mère, parce qu'il n'y avait qu'un numéro de téléphone sur la cassette. Et je ne parle pas allemand, elle était allemande, la mère, de Patricia. Et je me suis retrouvé dans une fête de la bière.
À Francfort. Non mais elle chantait, donc elle avait son succès local, qui avait grandi plutôt du côté germanophone, comme ça.
Exact.
Et mais chanter dans une fête de la bière à Francfort, c'est sportif quand même.
Alors, il y avait un petit podium, il y avait des tables de 18 mètres de long avec des chopes de bière gigantesques. Je me dis, elle va arriver, un tout petit podium. Je me dis, mais elle va se faire assassiner. Et elle est arrivée toute frêle et toute mignonne. Et elle chantait sur un playback et non pas en playback. I'm just a gigolo, etc. Tout ça. Elle a fait le silence en 30 secondes. Alors là, je me suis dit, toi, ma petite fille, si tu fais le silence
les
en 30 secondes...
Les buveurs de bière allemande se sont tous calmés et ont donné toute leur attention.
C'était extraordinaire. C'est un moment vraiment très, très présent dans ma mémoire, ça.
Cette autorité, cette voix singulière qui a frappé tout le monde à ses débuts, et vous aussi, j'imagine.
Moi, j'ai été tout de suite sous le charme, non seulement ça, mais là, j'avais des frissons, moi, en entendant cette voix que personne n'avait jamais entendue.
Ouais.
Une voix graillonneuse comme ça, avec beaucoup d'épaisseur. Ouais. Depuis Piaf, j'avais jamais entendu ça.
Et alors, finalement, les choses se sont enclenchées. Vous lui avez proposé d'enregistrer.
Oui, bien sûr. Ouais. On l'a fait venir à Paris, on l'a choyé, on a fait tout de suite des petits studios. Tout de suite des essais avec Dominique Perrier, un grand arrangeur qui nous a quittés récemment d'ailleurs. Et puis voilà, on a fait un premier disque, j'ai coproduit avec Elisabeth Depardieu. Et voilà, on n'a pas eu beaucoup de succès sur le premier disque, mais. Et puis Elisabeth s'est retirée de l'affaire. Et là, je suis allé voir Barbe Olivia.
Et c'est vous qui avez présenté aussi donc Barbe Olivia à la jeune Patricia Cass.
Ouais, alors lui, il a tout de suite vu le truc, lui.
Ouais.
Tout de suite, il m'a montré Mademoiselle Gentleblouse, chanson qui avait été refusée par pas mal de gens.
Ouais.
Et
mon mec à moi, alors
j'ai dit, c'est venu parce qu'on a fait l'album dans la, on a écrit tous les deux cet album dans la foulée. Et dont Mon mec à moi, bien sûr.
Comment ça s'est passé, le travail entre Barbe Olivia, vous et Patricia, pour écrire Mon mec à moi, par exemple, concrètement, c'était quoi
Patricia, avec cette intelligence et cette faculté d'être notre... instrument n'est péjoratif, elle faisait partie de la création, parce qu'elle amenait évidemment sa touche de voix.
Et oui, nous, on savait ce qui devait ressortir dans les mots.
Et nous, on écrivait en fonction de ça. Et Didier et moi, on s'était dit, bon, voilà, la ligne de conduite, c'est Irma la Douce. Cette fille, c'est Irma la Douce.
Oui, c'est ça.
Elle est paumée, les hommes profitent d'elle, sa mère, elle sait pas, elle sait rien du tout, elle est jolie, et voilà. Elle est dans la vie, elle sait pas très bien où elle va. Lui a fait des chansons. Que en fonction de ça.
Et puis, alors, il y avait peut-être un quatrième acteur, si on peut dire. C'était un des grands hommes du monde des studios d'enregistrement parisien de l'époque. C'était Bernard Estardi.
Bernard Estardi, oui, bien sûr.
En deux mots, Bernard Estardi.
Bernard Estardi, qu'on appelait le géant, qui faisait 2 mètres et qui avait conçu lui-même son petit studio qui s'appelait CBE et qui était rue Championnet à Paris. Et lui, il a tout arrangé de tout le monde. À commencer par Nino Ferrer et peut-être même d'autres, mais de Sardou.
Avec toujours des idées, des trouvailles, des...
Claude François. Alors, par exemple, bon, c'est lui qui avait fait aussi enregistrer Alexandre et Alexandra, qui avait été écrit et composé, enfin, composé surtout par...
Jean-Pierre Bourtière
qui vient de nous quitter. Ouais. Voilà.
Et voilà. Et tout ça, en tout cas, ça donne Mon mec à moi en 1988.
Il joue avec mon cœur, il triche avec ma vie. Il dit des mots menteurs, et moi je crois tout ce qu'il dit. Les chansons qu'il me chante, est fait pour deux. C'est comme les bonbons menthe, ça fait du bien quand il pleut. Je me raconte des histoires en écoutant sa voix. C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois. Mon mec à moi, il me parle d'aventure. Et quand t'es brillant dans ses yeux, je pourrais y passer la nuit. Il parle d'amour comme il parle des voitures. Et moi je suis où il veut, tellement je crois tout ce qu'il me dit. Tellement je crois tout ce qu'il me dit. Moi, sans jamais dire je t'aime, c'est rien que du cinéma, mais c'est du pareil au même. Ce film en noir et blanc qui m'a joué de sang froid, c'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça. Je me raconte des histoires, des scénarios chinois, c'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois.
Mec à moi, c'est Patricia Cass.
Parole de Didier Barbelivien quand même. Hein.
Oui, mais quand même, musique de François Bernheim, oui. Qui est mon invité, qui est en face de moi aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Et une chanson en plus que Patricia Cass avait pas spécialement envie de chanter au départ, je
crois. Non, quand on lui a montré la chanson avec Didier, elle a dit « mais je peux pas faire ça ». Je lui ai dit « bon, pourquoi ?»« Bah, parce que mon mec, il est pas du tout comme ça
». Bah,
oui, mais tant pis.
Et ça a été le succès qu'on connaît, le démarrage de l'extraordinaire carrière qu'on connaît, François Bernheim. Vous avez un côté... Vous aimez la vie, vous êtes un hédoniste, vous aimez les plaisirs, tout ça. J'ai vu que par exemple dans les années 76, 77, 78, avant même le démarrage du Palace à Paris, vous étiez un habitué du studio 54 à New York, non?
Ah, 54.
Ouais.
C'est parce que j'ai produit plusieurs albums à New York, de groupes, et je m'étais envoyé par Universal. Et c'est vrai que c'était l'époque du 54 où, évidemment, sous les goodies, quand on sort de séance, on va au 54.
Et vous aimiez cette vie nocturne débridée
À l'époque, oui. Maintenant, j'en ai un peu plus rien à foutre. Mais... oui, c'était. Il y avait quelque chose quand même qui se passait à New York à ce moment-là.
Voilà, on peut dire, c'était le début de la vague disco, funky, machin,
plein dedans,
etc.
C'était en plein dedans.
Oui, c'est ça. Ouais. Et vous avez suivi ça après un petit peu à Paris, au Palace, au Bain-Douche, à la Main Bleue, dans tous ces endroits.
Oui, parce que bien sûr, il m'arrivait d'aller au Palace, bien sûr. Bien sûr, oui, bien sûr.
Voilà.
Pas tout le temps, hein. Non, mais moi, je me lève tôt.
Oui. Ce qui, évidemment, quand on est noctambule, c'est pas facile.
Ce matin, je me suis levé à 5h30.
Ah, oui.
Voyez-vous, voilà, c'est comme ça. Hein. Puis je prends ma guitare tout de suite.
Vous commencez par écrire une chanson. C'est votre petit déjeuner, quoi.
J'essaye, oui.
Ah, c'est formidable. François Bernheim, vous nous disiez tout à l'heure que, bon, peut-être que, effectivement, comme interprète, vous n'avez pas eu le succès espéré, mais alors, certaines de vos chansons que vous avez enregistrées vous-même, et chantées en concert ou ailleurs, eh bien, ont ressurgi par la voix d'autres interprètes et ont connu une deuxième vie, et une deuxième vie pas mal. Je pense notamment à Richard Cocciante, avec Il mio rifugio, gros succès pour le film de Patrice Lecomte qui s'intitulait Tandem, et que vous aviez déjà enregistré 10 ans avant, sous le titre Le Refuge.
Le Refuge, voilà. C'est-à-dire Patrice, avec lequel je travaillais beaucoup, parce qu'on faisait des pubs ensemble, j'en ai fait beaucoup des pubs, il m'a dit un jour, voilà, j'ai fait un film, je vais te le montrer, j'aimerais un truc en italien. Alors, Je ne sais pas du tout ce que c'était. Fais-moi une chanson en italien. Donc, je lui montre trois trucs au piano. Je ne suis pas pianiste du tout. Hein. Et je lui montre le refuge, mais avec un yaourt italien. Ouais. Je ne sais même pas parler. Bon, ouais. Et il me dit, c'est ça.
C'est ça.
Voilà.
Il faut dire qu'avec la voix de Cochiane, ça devient un truc très italien. Là.
On demandait à Cochiane de chanter cette chanson qui est devenue, évidemment... Moi, j'ai fait la musique du film en ce sens que je saupoudre ce film de... Beaucoup d'extraits de cette chanson,
ouais.
Qui est devenue, oui c'est vrai, un tube, et qui reste pour moi quelque chose de merveilleux à écouter, toujours.
Quando la sera scivolò su di noi, all'uscita della scuola in città, ci prendemmo per mano e ti dissi, io ti amo. Quando un bambino ci tagliò poi la via, con un tamburo di latta e una scia, e poi quel suono rimbalzò su di noi, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio. Poi ti stringesti forte insieme a me, quasi a proteggere l'eco dentro di te, delle prime parole d'amore, io ti amo. Quando la neve di silenzio imbiancò tutto quel chiasso al centro della città, e le nostre parole gelò, io ti amo. Contammo di baci mai dati, io ti amo, il mio rifugio, il mio rifugio, sei tu. E quando l'incanto parla ancora di te, da un quadro un'alba da ciò che non c'è, sorridendo penso ancora di te, che ti amo, tanto lontana non so se sarai, tanto vicina ascoltarmi potrai, come me nessuno dirti saprà, io ti
Voilà la voix irrésistible de Richard Cochiante.
Et l'arrangement de Slim Batteux, tout seul au piano.
Ah oui, ça marche bien. Oui. Voilà, c'est une chanson de François Bernheim, Le Refuge, que vous aviez enregistrée en 76, et qui est assez rare, un succès de chanson qui éclate par un film, là, en l'occurrence, c'est le cas.
Vous savez que le film Tandem était absolument magnifique. Ouais. Patrice Lecomte, il avait frappé fort. Hein.
En tout cas, François Bernheim, je suis ravi d'avoir été avec vous ce matin. Vous avez fait mille choses, on le voit, c'est passionnant d'évoquer votre vie, tous ces succès dont on ne sait pas forcément qui viennent de vous, parce que vous êtes aussi, justement, vous employez l'expression tout à l'heure, de ces hommes de l'ombre qui ont fait la chanson française dans tous ses aspects. Et vous n'êtes pas le seul, les grands arrangeurs, les grands auteurs, les grands compositeurs, on connaît que les noms des chanteurs, c'est ça le problème.
Oui, et comme disait, et comme dirait mon ami Barbelivien, j'ai pas fait ça tout seul, vous savez.
À noter quand même, oui, vous êtes très lié depuis quelques années à cette artiste que j'adore, qui est Sandrine Saroche.
Ah, Sandrine,
oui. Vous avez participé à toutes ces parodies musicales qu'elle faisait, oui, à la télévision, dans Zemmour et Nolo, par exemple, c'est
on,
ça
on est trois à écrire, il y a Christian Bouclier, avec lequel j'avais fait un succès d'ailleurs, qui s'appelait Anaïs Nin, chanté par Renaud
et Roman.
Et Roman, oui, oui. Et qui est avec nous depuis le départ. On écrit à trois. Et là, on est en train de peaufiner.
C'est une humoriste irrésistible.
Ah, irrésistible. Une énergie. Rarement j'ai vu ça, quand même.
Et alors, vous montez avec elle sur scène.
Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire que ce soir.
Ce soir à Gagny.
Nous serons à Gagny au théâtre André Malraux.
André Malraux.
À 20h30.
À 20h30. Faut pas rater ça. Et puis, on attend que vous soyez effectivement aussi à Paris, je pense, dans quelques mois.
Au Mathurin,
donc,
en janvier.
Avec Saroche. Mais alors, voilà. Bah, tu jouais, tiens, pour. Pour nous quitter, évoquer quelqu'un dont on ne parle pas souvent, contrairement à son illustre époux d'un temps, c'est Elisabeth Depardieu, qui a été une amie très proche de vous aussi.
Oui.
Et leur fils Guillaume aussi, c'était vraiment...
j'ai écrit l'album de Guillaume.
Une amitié presque familiale, quand vous vous êtes tous rencontrés.
Oui, j'ai fait chanter toute la famille, je crois. Oui, Gérard, Julie, Guillaume.
C'est vrai.
Ah, Guillaume, oui. j'ai composé l'album
vous
de Guillaume,
très
c'est lui qui a écrit les paroles.
Oui, c'est ça, oui.
Et avec Elisabeth, où on a fait deux albums.
Elle avait fait des débuts de chanteuse, en fait.
Oui, prometteur. Et puis, ça s'est arrêté parce que, bon, peut-être c'est un peu prenant aussi comme ouais, métier. Elle écrit très bien, elle écrit de très beaux textes, à ce point même que Barbara a décidé de réaliser son deuxième album. C'est-à-dire qu'elle m'a jeté du studio, elle m'a dit « Fous le camp, faut pas te voir ». Bon, d'accord. Et elle a réalisé le deuxième album d'Elisabeth que je trouve toujours formidable.
Mais vous êtes resté amie d'Elisabeth.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr.
Et alors, donc elle a écrit des chansons avec vous pour d'autres artistes, hein. Et puis elle a, vous avez écrit cette chanson qu'on va écouter pour elle, qui s'appelle
J'irai en Chine.
J'irai en Chine, c'est très drôle.
J'aime beaucoup ça.
Voilà, moi, c'est une joyeuse façon de nous quitter, François Bernheim.
Merci Benoît.
Je suis très heureux de vous avoir reçu ce matin.
Alors, moi, je suis aux anges. Hein. Dès qu'on parle de moi, vous savez. Hein.
Ah, vous savez
comment
important
sont les artistes.
Artiste, hein. Et comment
J'irai en Chine, plus loin qu'en Chine. En coche en Chine, si tu me câlines. Mais ça me dit rien. Coucher à Pantin, les baisers sous le papier de ta chambre à coucher. Je te jure, j'en ai marre, et puis ça me file le noir. Wow, 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 wow. Oh, je veux de l'exotique, wow, 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 dans le parfum du soir. Chine, plus loin qu'en Chine, en coche en Chine, si tu me câlines, mais ça me dit rien, coucher à Pantin. Déjà sur un grand bateau, tu m'embrasseras le dos, chouchou ton corps est beau, doudou le mien dit, oh, 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 oh. La musique plein la. J'irai en Chine, plus loin qu'en Chine, en coche en Chine, si tu me câlines. Mais ça me dit rien, coucher à Pantin.
Non, je sais pas où c'est la Chine. Non, je sais pas où c'est la Chine. Ça me chagrine.
Je perdrai la raison. Ici l'hiver est rude pour la paroisson.
Wow, wow, wow,
wow. Il me faut de l'espace.
Wow, wow, wow.
Oui, pour que je t'enlace.
Wow, 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 wow.
Dans les trains de banlieue, notre amour s'est fait vieux. J'irai en Chine, plus loin qu'en Chine. En coche en Chine, si tu me câlines. Mais ça me dit rien.
chez à Pantin.
J'irai en Chine par Elisabeth Depardieu, c'était en 1982, une chanson de François Bernheim qu'on entend d'ailleurs également en duo dans cette chanson, François Bernheim qui était ce matin mon invité. Vous pouvez le retrouver ce soir au théâtre André Malraux de Gagny avec Sandrine Saroche et puis plein de chansons à lui également à retrouver sur internet et ailleurs. C'est la fin d'Étonnez-moi, Benoît, une émission de Benoît Duteurt préparée par Annie Caumier, avec aujourd'hui à la technique Nadège Antonini, réalisation des Vies Travailleurs. La semaine prochaine, eh bien, je rendrai hommage à André Pop avec son fils Daniel Pop et notre ami Stéphane Lerouge pour évoquer donc ce grand musicien. D'ici là, bon week-end à tous sur France Musique. Et sur France Musique, et bien maintenant vous avez rendez-vous avec Sébastien Linares.
À réécouter sur francemusique.fr.